Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, bien heureux de vous savoir là. Vous savez, il y a des moments dans la vie qui sont uniques, singuliers, pour ne pas dire magiques. J'ose dire que la prochaine heure va s'inscrire parmi ceux-ci. Quel plaisir immense et quel privilège nous avons d'accueillir un comédien, un animateur et surtout un passionné de la musique. Au gré du temps, cette passion, il a su nous la communiquer et réussit encore à nous faire découvrir et apprécier les grandes œuvres de la musique, celles qui traversent le temps et qui touchent le cœur. Au théâtre, il a joué dans plus de 200 pièces et pour toute une génération, il demeurera le loup-garou de l'émission Pirate Maboule, toujours prêt à donner la réplique à Madame Becsec. Jules Renard a écrit que l'artiste est celui dont le goût va plus vite que le talent. S'il avait connu notre invité, il aurait peut-être écrit qu'ici le goût et le talent vont de pair. Avec nous, M. Edgar Fritier, bonjour. Bonjour.
Je ne sais pas quoi répondre à cette description comme celle-là, je trouve ça tellement laudatif.
Mais Verlaine, Molière, Racine, aussi bien que Mozart, Beethoven, Debussy, ont fait partie de votre univers de façon constante.
Évidemment, c'est un comédien, et puis aussi, je veux dire, est-ce que vous me permettez de dire un proxénète de la musique aussi? J'espère que ça va dans cette direction, bien sûr.
Mais vous fréquentez tout ce beau monde depuis de nombreuses années.
Oui, oui, et autant le théâtre que la musique, parce que d'abord et avant tout, je suis comédien, bien sûr. Et mélomane, je l'ai toujours été aussi, mais jamais je n'aurais cru que j'aurais été... une partie de la musique, vous savez, parce que pour moi, c'était un mystère. Je rêvais de l'être, hein. Je rêvais d'être chef d'orchestre. Je rêvais même qu'on me greffe le gosier de Caruso, vous savez. Bon, ce genre de rêve qu'un enfant peut faire, irréalisable, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne pensais jamais qu'un jour, je pourrais faire une partie de mon existence à construire à partir de la musique d'une façon professionnelle. Et c'est ce qui arrive, bien sûr, depuis quelques années, depuis de nombreuses années d'ailleurs.
Cette passion provient-elle du fait que, parce que votre père a été absent, vous l'avez perdu très jeune.
J'avais 2 ans, oui.
Mais il vous a légué un bel héritage, une bibliothèque,
oui,
qui vous a donné le goût de lire.
Oui, exactement. Et c'est de là que vient ma passion pour le théâtre d'ailleurs. Parce que bien sûr, notre mère nous disait quelquefois, bon, écoutez, ça c'est pas pour votre âge. On se jetait là-dessus tout de suite, bien sûr. Hein? Bon, il était évident que dès qu'elle avait le dos tourné, c'est le livre qu'on lisait. Et je lisais des livres spécialement, je disais, il y avait toute une collection Victor Hugo. Et je me suis rendu compte en lisant ça, qu'il y avait des livres qu'on pouvait dire. C'était des pièces de théâtre. Et là, je me suis rendu compte, ben là, j'aimerais ça, faire ça. Et j'étais un enfant qui était dans les premières années, disons, j'avais peut-être, d'école, je veux dire, là. Oui. J'avais peut-être, disons, 11 ans, 12 ans. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait dire, lire à haute voix des romans. C'était du théâtre.
Et là, peut-on dire que vous étiez boulimique des livres à cette époque?
Je le crois. Le mot boulimique est bien choisi, en l'occurrence, parce que, écoutez, j'étais demi-pensionnaire au Collège Sainte-Marie et je détestais la nourriture qu'on nous servait. Alors j'ai dit à ma mère, je ne vais plus manger là, c'est immangeable. Alors elle me donnait un peu d'argent pour que j'aille manger le midi dans un restaurant rue Sainte-Catherine et tout. Et bon, alors elle me donnait assez d'argent pour que je m'achète une pièce de viande, genre steak et tout, mais je m'achetais un sandwich de tomate pour acheter des livres. Ou quelquefois de la musique, et quelquefois, un peu plus tard, des disques, parce que des disques, c'était plus cher.
Donc, cette passion est pour le théâtre, pour la littérature, pour la musique, tout cela était concomitant, et
oui.
Vous étiez déjà en train de préparer votre avenir.
Ah, c'était tout à fait inconscient, parce que je ne pensais jamais que j'aurais assez de talent pour faire du théâtre, d'une part, et d'autre part, je me disais, ce que j'aime, c'est écouter de la musique, et je n'aurais cru que j'aurais pu en parler, vous savez. Alors, ces deux fonctions-là sont devenues, en somme, mon métier, et je m'en suis réjoui, bien sûr. C'est que quand je me suis rendu compte, d'une part, qu'au théâtre, on me faisait jouer des rôles de plus en plus importants et que j'arrivais à les défendre. Je disais, mais jamais j'aurais cru qu'une chose semblable fût possible. Et en musique, bien sûr, c'est Jean Valrand qui me voyait au concert Et il était à ce moment-là critique du devoir d'une part, c'est pourquoi il était au concert, et dans l'administration de Radio-Canada, qui m'a dit à vous voir, vous êtes comédien, ce serait intéressant que vous nous parliez à une émission de la musique que vous aimez. Je dis, mais est-ce que je peux faire ça, vraiment? Vous savez, je me posais des questions. Mm-hmm. Et lui, il avait confiance, et c'est lui qui m'a donné confiance et qui m'a fait avoir une première émission où j'ai parlé de musique. Et là, ça a fait boule de neige, ça, vous savez.
Et cette carrière s'est développée assez rapidement par la suite. Cette carrière de chroniqueur...
Ben, je veux dire, peut-être moins rapidement que la carrière de comédien, forcément.
Bien sûr.
Mais tranquillement, ça, vous savez, comme je dis, boule de neige. Vous savez ce que c'est qu'une boule de neige qui roule? Ça roule de plus en plus vite, hein, mais ça commence lentement. Et c'est un peu ça qui s'est produit.
Je sais que par le théâtre, il y a des auteurs qui parfois nous marquent davantage. Vous aimez beaucoup Jean Racine, me dit-on.
Oui, moi, mon auteur de théâtre préféré, c'est évidemment Molière.
Molière.
Je dis toujours que mon Saint-Jean-Baptiste préféré, c'est Molière, puisqu'il s'appelait Jean-Baptiste Péloquin.
Oui.
Et je célèbre la fête de Saint-Jean-Baptiste en fonction de Molière.
J'allais dire, et on pourra y revenir, mais ce qui est assez extraordinaire dans votre cas, c'est que vous avez fait deux carrières parallèles. Une, j'allais dire, un peu sérieuse, celle de la musique, même si vous le faites avec un grand jovialisme.
Bien sûr, parce que...
Mais c'est... une carrière aussi de comédien et dans des rôles très souvent loufoques.
Oui.
Vous parlez de Molière.
Oui, ben j'étais un comédien. D'ailleurs, on me disait, quand je commençais à suivre des cours d'art dramatique, on me disait, tu es un comique. Alors, bien sûr que moi, je me voyais dans les grands rôles tragiques. Hein, bien sûr, quel est l'adolescent qui ne se voit pas jouer ces grands rôles-là? Mais non, c'était pas mon emploi. Mais on me les faisait travailler aussi, et c'est avec raison, pour faire du contre-emploi, pour essayer de donner un peu de poids au comique que j'étais.
Alors, je reviens à Racine, parce que Racine a écrit « Allez, le temps est cher, il le faut employer ». Alors, pour bien l'employer, nous allons passer à la musique.
Parfait.
Et je sais que nous pourrons en revenir par la suite sur ce nouveau coffret que vous venez tout juste de produire, en quelque sorte.
Non, je ne l'ai pas produit vraiment, je l'ai construit.
D'accord.
Il y a des producteurs, bien sûr.
Mais le choix vous appartient.
Oui, bien sûr. Oui. Mais je veux dire, la production, ça fait toujours de côté, est-ce que je peux dire financier de l'affaire? C'est pas moi qui me suis lancé dans ça, j'ai pas les reins assez solides. Mais je veux dire, le produit lui-même, je l'ai préparé avec de bons conseils aussi.
Alors parlons donc de cette première pièce, qui est d'ailleurs une pièce inédite, puisque vous avez fait appel à de jeunes musiciens qui ont un talent formidable.
Absolument, oui.
Alexandre Dacosta.
Oui, qui fait une carrière d'ailleurs depuis très longtemps. Moi, je le connais depuis qu'il est petit garçon et qu'il jouait en concert alors qu'il avait à peine dépassé 10 ans. Et je l'ai suivi comme ça constamment. Et ce qui fait qu'on l'a peut-être un peu oublié pendant un certain temps, c'est que arrivé à l'âge, lui pourra vous dire des âges précis, mais disons début de la vingtaine, il est allé étudier à Vienne pendant quelques années, donc il est disparu d'ici. Il nous est revenu, et là il fait sa carrière actuellement à travers le monde. Vous savez que très bientôt, dans ces jours-ci là, il doit partir pour aller jouer un concerto pour violon, je crois c'est le Tchaïkovski, sous réserve d'erreur, en Italie, ensuite à Vienne, et ensuite en Espagne, et quand il ne s'en va pas jouer en Chine, c'est bon, etc. Donc il fait une carrière internationale, et tranquillement, il se réétablit ici. Je sais qu'il va jouer avec l'Orchestre Symphonique de Montréal pendant la saison. Là.
Alors, je vous laisse présenter la première pièce de cette émission que vous avez choisie et qui est extraite de ce coffret.
Oui, c'est d'ailleurs Dacosta, c'est le disque qui est consacré à Alexandre Dacosta. C'est le fameux tango d'Isaac Albéniz, mais transcrit pour le violon par, d'ailleurs, comme toutes les pièces que joue Dacosta dans ce coffret, par Fritz Kreisler, qui était un violoniste extraordinaire, viennois, vous savez, et qui a fait une carrière et de violoniste, et de compositeur, et aussi de tricheur. C'était un médecin aussi.
Oui, il a fait la médecine, c'est ce que j'allais dire.
Mais le tricheur en lui, c'est qu'il a composé des pièces qu'il disait... voici une composition, mais là, Albéniz, c'est vraiment Albéniz qui l'a fait. Mais d'autres pièces disaient, c'est une pièce de Couperin, c'est une pièce de Beethoven, c'était pas vrai. Et tous les critiques disaient, nous venons de découvrir, grâce à Fritz Kreisler, telle pièce. Et c'était lui qui l'avait composée. Puis à un moment donné, il a tout révélé ça. Ça a créé une bombe, ça a fait une bombe dans, dans le milieu. Hein.
On écoute.
Thank you.
De retour à l'émission Au gré du temps, en présence aujourd'hui d'Edgar Fruitier. C'est un privilège, je le disais en début d'émission, parce que vous avez meublé l'imaginaire de toute une génération, y compris la mienne, avec ce personnage de loup-garou.
Loup-garou dans la boîte à surprises dans les aventures du pirate Maboul.
Et à l'âge d'aujourd'hui, nous sommes demeurés fidèles parce que vous nous avez fait découvrir, encore une fois, un monde extraordinaire, celui de la musique.
Oui. Mais vous savez qu'il faut dire une chose, c'est que Jacques Destourneaux, qui écrivait des textes de ses aventures du pirate Maboul, et c'est d'ailleurs lui qui jouait le rôle du pirate Maboul, avait fait de loup-garou un personnage qui avait une certaine ressemblance avec ce que je suis, c'est que il aimait la musique, loup-garou. Alors, vous voyez, il s'est servi un peu de ça, puis il se servait de ça pour essayer d'apporter ça aux jeunes, aux enfants qui écoutaient l'émission, que loup-garou écoutait la musique, donc les enfants pouvaient écouter la musique. Et
le pirate, lui, préférait les bonbons, les sucreries.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il les volait même à l'occasion. Je l'accusais des pires crimes, bien sûr.
Et Molière, parce que vous en avez glissé un mot précédemment, Molière qui a été, à son époque, le fou du roi, en quelque sorte.
Si on veut, oui, il n'était pas exactement le fou du roi, mais c'est que le roi, Louis XIV, avait une très grande admiration pour cet écrivain, je comprends. D'ailleurs, c'était peut-être le plus grand écrivain français de ce siècle, avec La Fontaine, selon moi. Mais vous savez qu'il y a une anecdote autour de Molière, je pense que je vais vous la raconter. Je rencontre un jour, dans un autobus, je revenais de Trois-Rivières, et lui arrivait de Québec, un prêtre, Ambroise Lafortune, que vous avez peut-être connu, et qui faisait des émissions radio dont on le connaissait très bien, on avait beaucoup de plaisir avec lui, c'est une bonne âme, très joviale. Puis là, il me dit, tu sais, Fruitier, j'ai assisté aux funérailles de Molière, moi. Il est mort en 1673. Ben là, j'ai sauté ça, ça n'a aucun bon sens ce que tu es en train de dire là. Écoutez, tu n'as pas 300 ans d'existence, etc. Non, j'ai assisté aux funérailles de Molière. Et là, il m'a expliqué, c'était vrai.
Alors, expliquez.
Ben voilà, c'est que Molière étant comédien, à l'époque, les comédiens étaient excommuniés. Ils ne pouvaient pas entrer à l'église à leur mort. À moins qu'ils aient apostasié le théâtre. C'est ce que Molière n'avait pas eu le temps de faire, s'il avait l'intention. Donc, il n'y a pas eu de funérailles. Au 300e anniversaire de sa mort, en 1973, l'église catholique l'a rétabli catholique. Ils ont fait ses funérailles à l'église Saint-Germain-des-Prés et il était là. Et ça, c'était très correct.
Ah, que c'était intéressant!
D'ailleurs, je ne me souviens pas s'il ne m'a pas dit, c'était le cardinal de l'époque, là, je ne me souviens plus qui était le cardinal à Paris à ce moment-là, qui célébrait les funérailles. Et comme il était prêtre, je ne me souviens pas s'il m'a dit qu'il était dans dans l'église ou s'il était diacre ou sous-diacre, ça m'étonnerait qu'il ait été diacre ou sous-diacre, parce que bien sûr, peut-être un des prêtres français.
Mais voilà une belle façon de maintenir son heure de gloire.
Oui, exactement. Et puis de faire sursauter les gens. Oui. Mais voyons, mais t'es complètement fou, me dirais.
Côté musique, on a peut-être une petite surprise pour vous. Vous savez, puisqu'on parle de cérémonies catholiques, religieuses, Jean-Paul II, le défunt pape, a écrit de nombreux poèmes parce qu'il a été aussi associé au théâtre.
Oui, il a été comédien, étant très très jeune.
Très jeune.
Oui.
Et quelqu'un a eu l'idée de mettre en musique les poèmes de Carole Wojtyła, qui est devenu Jean-Paul II.
C'est terrible, mais ils n'ont jamais pensé de faire ça avec mes poèmes. Ou dire que, bon, c'est peut-être préférable.
Mais il faudrait peut-être en parler à Placido Domingo, qui vient tout juste d'enregistrer différentes chansons sur les textes de Jean-Paul II.
De l'ancien pape.
Alors, on écoute une pièce qui a pour titre « Amore glorificato ».
Quest'amore ha spiegato ogni cosa. Quest'amore è tutto per me. Per questo ammiro l'amore, ovunque esso sia, e quando si posa in me. E poi che son distesa aperta all'afflusso, silenzioso, per ricorda un'onda tranquilla, scopre luce negli abissi, spande il suo chiamore. quest'amore ha spiegato ogni cosa, quest'amore è tutto per me, per questo ammiro l'amore, ovunque esso sia, e quando si posa in me. Ricorda un'onda tranquilla, scopre luce negli abissi, spande il suo chiarore. Perciò in quel silenzio io non mi curo dei giorni passati. L'amore m'ha spiegato, l'amore risolve tutto per me. E poi che son distesa aperta al flusso, silenzioso, ricorda un'onda tranquilla, scopre luce negli abissi, spande il suo fiatore su di me.
Nous sommes de retour à l'émission Gris du Temps. Avec nous, le charmant, le drôlatique Edgar Fruitier, mais surtout le passionné de musique, qui vient de choisir les pièces qui composent le troisième coffret des choix d'Edgar.
C'est ça, exactement. Ça vient de ma discothèque. Tous les trois coffrets ont été construits à partir de disques que j'avais chez moi. J'ai une grosse discothèque, bien sûr.
Tout on dit que c'est la plus importante au Canada, discothèque privée.
Je ne crois pas que ça soit vrai. Mais c'est une des plus importantes, parce que j'ai quelque chose comme 57 000 disques, voyez-vous. Mais je sais que...
Vous ne déménagez pas souvent, vous.
Non, jamais. Hein, je suis indéménageable. Mais quelqu'un que je connais, je ne vais pas le nommer, parce que c'est quelqu'un dans le domaine public, m'a dit qu'il avait plus de 100 000 disques, lui.
Vraiment?
Donc, je suis battu à ta
couture. Vous êtes jaloux, alors?
Oui, je suis jaloux.
Alors, ce coffret est composé, donc, de pièces que vous avez choisies à même votre discothèque.
Exactement.
Mais axé davantage, je pense, sur la période romantique.
Voilà, qui est le 19e siècle, comme vous le savez. Évidemment, comme je dis toujours d'une façon, j'espère, plaisante, le romantisme n'a pas commencé le 1er janvier 1800 pour se terminer le 31 décembre 1900. Évidemment, on bave un peu sur les deux siècles qui sont autour, et c'est ce romantisme qui a été un petit peu la réponse de la littérature et des arts aux révolutions qui ont eu lieu à la fin du 18e siècle aux États-Unis, en 1776. Vous souvenez-vous que c'était le gouvernement par le peuple, pour le peuple.
Bon, ensuite, il y a eu la Révolution française en 89.
Où on avait les trois libertés, égalité, fraternité, qui était une espèce de slogan qui a été lancé. Et tout ça cernait l'homme dans la société, qui devenait, en somme, non pas le sujet d'un roi, mais le sujet d'une république qu'il avait élue.
Et il y avait un bouillonnement extraordinaire.
Oui. Alors c'est donc la glorification de l'individu. Et ça, je crois que le romantisme vient beaucoup de ça, où le compositeur va être un peu le protagoniste de son œuvre et expliquer les angoisses, les joies, enfin toutes les émotions. Et quelquefois, il va aussi aller dans un autre aspect du romantisme qui est très important selon moi, la nature. Vous souvenez-vous qu'en peinture, vous savez, avant le 19e siècle, les peintures se faisaient dans les ateliers. La plupart, à peu près toutes. Et c'est au 19e siècle qu'on est parti, les peintres sont partis voir et travailler sur le sujet, c'est-à-dire aller à la campagne, si c'était un paysage. Ils n'étaient plus enfermés dans un atelier. La nature,
oui.
Vous savez, et le romantisme, c'est très important, la nature, pour le romantisme.
Dans ce contexte, et extrait aussi de ce coffret, nous allons entendre le troisième mouvement de la symphonie numéro 3, en fa, opus 90 de Johannes Brahms. Un mot sur cette œuvre.
Ah oui, la troisième symphonie. C'est une symphonie... Ça, vous savez que la plupart des chefs d'orchestre, et je crois qu'ils ont raison, trouvent que c'est la symphonie la plus difficile à diriger. Toscanini, qui était un très grand maître, disait « Je ne peux pas diriger ça. Je n'y arriverai jamais à la diriger. » Et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait que plusieurs fois. Et quand on écoute cette œuvre-là, on dit « Mais ça tombe sous le sens. C'est tellement... » d'abord, la musique est absolument magnifique. Mm-hmm. Les thèmes qui sont utilisés sont extraordinaires. Et c'est une symphonie, justement, qu'on pourrait dire la pastorale de Brahms, puisqu'on parle de nature. Je vous ai parlé tout à l'heure de nature en fonction du romantisme. Mais on se trouve devant quelque chose qui est une évocation très sereine, disons, de la nature.
Est-ce la raison qui explique, parce qu'on semble-t-il qu'on dénombre plus de 150 enregistrements de cette œuvre?
Ah oui, mais ça, j'aime autant vous dire que quand on arrive dans ce répertoire symphonique du romantisme, on a, pour toutes les symphonies, tous les concertos, toutes les sonates, un nombre incalculable d'enregistrements. Je sais que pour moi, les symphonies de Brahms, je les ai au moins dans 100 ou 125 interprétations différentes.
Et l'extrait que nous allons entendre, donc le thème du troisième mouvement, oui, a également constitué la musique d'un film,
ah oui?
Celui d'Anatole Litvak, que je ne connais pas. Le titre de ce film, Aimez-vous Brahms?
Ah oui, d'après le roman de François Sagan, sans
exact,
doute. Oui.
Exact. Oui. Et le thème a aussi été repris par Serge Gainsbourg dans une chanson qui s'appelle Baby Alone in Babylon.
Tiens.
Et c'est Gainsbourg qui s'est inspiré de ce mouvement de Brahms. C'est quand même intéressant,
ben,
de voir que la musique peut parfois reprendre d'autres élans romantiques.
Mais vous voyez, c'est que la musique, c'est universel.
Voilà. Alors, place à Brahms.